Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Si je vous dis à la fin de l'envoi je touche, vous me dites, Cyrano de Bergerac bien sûr. Cyrano qui en duel dans une scène de cinéma rendue fameuse par Gérard Depardieu, humilie un jeune noble infatué et lui lance cette apostrophe. Notre invitée de ce matin a quant à elle comme ennemi la maladie, le cancer plus précisément. Et elle aussi c'est en combattante et même en escrimeuse qu'elle fait la guerre à ce fléau qui veut mettre les plus braves à genoux. Une femme médecin, fondatrice d'une association appelée Riposte, qui aide les femmes à se reconstruire après cette maladie en pratiquant l'escrime. Et à la fin de l'envoi, elle touche. Dominique Ornus, à la fin de l'envoi, je touche. C'est donc le titre de l'émission Vivante Église de ce matin. Comme à l'occasion de certains vendredis, on fait connaissance avec une personnalité. Aujourd'hui, c'est vous. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur, ancien médecin fédéral national de la Fédération française d'escrime et présidente fondatrice donc de l'association Riposte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc connu pour cette association, on peut la présenter en quelques mots parce qu'avant on va faire connaissance un petit peu avec vous puisqu'on a le temps. Dominique Ornus, alors c'est Dominique Ornus Drague, c'est ça ?
Dragne, c'est mon nom de jeune fille.
Dragne, c'est votre nom de jeune fille.
Oui, j'y tiens beaucoup.
D'accord.
Aussi.
Dragne avec un N donc. Cette association Riposte donc vous a valu un prix entre autres, enfin de nombreux prix, entre autres le prix version féminin, c'était en 2014. Si vous deviez la présenter rapidement, qu'est-ce que c'est que Riposte ? Et on y reviendra bien sûr. Hein.
Alors Riposte est une association qui permet aux femmes de se reconstruire après leur cancer du sein grâce à l'escrime. C'est très inattendu l'escrime, mais c'est un sport qui a beaucoup d'avantages, je vous en parlerai un petit peu plus, mais outre la gestuelle, c'est aussi un escrime de combat. Et une femme qui a eu un cancer du sein, il faut qu'elle apprenne à se battre. Voilà. Et c'est la première chose qu'on va lui apprendre. Après, ça va avoir beaucoup d'autres avantages.
Alors, vous êtes une combattante. Quand j'ai dit à la fin de l'envoi, je touche, tout de suite, ça a tilté pour vous.
Absolument.
Non seulement... Vous êtes gasconne ou... Non, vous n'êtes pas gasconne, je crois. Hein.
Non, je suis née à Toulouse.
Voilà, vous êtes née à Toulouse. Alors justement, à faire connaissance un petit peu avec vous. Et justement, dites-nous... Donc vous êtes née à Toulouse, oui en effet, c'était il y a quelques années, mais les femmes à partir d'un certain âge ont toutes 29 ans, comme tout le monde le
Absolument.
Sait. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? C'est souvent par ça que je commence avec mes invités quand c'est des émissions portraits, un peu de votre milieu d'origine, à quoi ressemblait votre famille, bourgeoise par bourgeoise, chrétienne par chrétienne ?
Alors, mon père était confiseur, c'est un ancien verrier de la verrerie ouvrière d'Albi. Mon grand-père était un des fondateurs. Mais à 17 ans, mon père a eu une maladie du poumon, il a eu une tuberculose, et donc il n'a plus pu souffler le verre. Il avait commencé à travailler à 12 ans, et comme il était passionné par les bonbons, il est arrivé à Toulouse, il est devenu épicier et confiseur, puisque c'était sa passion. Et il a fini son métier juste avant de nous quitter, à 92 ans. C'est dire qu'il a travaillé pendant 80 ans.
D'accord, c'était une confiserie qui était située où ?
Qui était située au centre-ville de Toulouse, rue Bellegarde, et il vendait en particulier des dragées.
Qui existe toujours, qui a été racheté ?
Non, ou... qui n'a pas été racheté. Nous avons toujours les locaux, mais
vous avez
pas
grandi
été
au milieu des bonbons, c'est le
j'ai
rêve.
J'ai grandi au milieu des bonbons. J'avais un succès, vous n'imaginez pas. Oui, j'ai grandi au milieu des bonbons et j'ai grandi surtout dans le magasin parce que j'avais l'habitude de faire mes devoirs sur le comptoir. Et c'est quelque chose, j'ai un souvenir extraordinaire, c'était l'accueil des gens avec le sourire de mon père ou le sourire de ma mère. Ma mère, elle, était d'origine paysanne des Hautes-Pyrénées. Mais voilà, mais avec toujours, comment vous dire, l'oncle de mon père était médecin des mineurs de Carmaux, moi je ne l'ai pas connu, c'est lui qui a fait reconnaître la silicose, et mon grand-père que je n'ai
alors
pas
juste,
connu non
juste
plus.
Vous passez un petit peu vite, donc vous êtes médecin, on l'a vu, donc on l'a entendu, donc vous aviez donc un oncle, c'est ça ?
Un grand-oncle.
Ouais. Un grand-oncle, d'accord, qui était donc médecin auprès des mineurs de Carmaux, ça veut dire quoi en fait ? C'était le médecin de la mine ?
C'était le médecin de la mine, oui. C'est un lointain parent, hein. C'était un grand-oncle de loin, mais qui a beaucoup compté pour mon père. Et c'était le docteur Cahuzac, et il était médecin de la mine, et il a fait reconnaître la silicose. Donc c'est quand même quelque chose, je ne l'ai pas connu, mais j'ai toujours été élevée malgré tout avec le souvenir de ce monsieur. Oui.
Quid des positions philosophiques, politiques ou religieuses un peu de votre famille ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en partager ?
Écoutez, mon père avait commencé à la verrerie ouvrière d'Albi. Mon grand-père était les socialistes d'avant, c'est-à-dire c'était vraiment de l'extrême gauche, il luttait beaucoup contre le patronat, c'était quand même, mon père était né en 1909, donc c'était il y a très longtemps, et mon grand-père était un fervent admirateur de Jean Jaurès, bien sûr, comme tous les verriers de la verrerie ouvrière d'Albi. Petit à petit, mon père a évolué dans ses opinions politiques et il est devenu plutôt du centre droit, comme un petit peu tout le monde dans ma famille.
Et pour ce qui est des convictions religieuses, puisque donc c'est
un... Alors, mon père avait été baptisé parce que mon grand-oncle était dominicain. Et mon père avait failli rentrer au séminaire. Je sais que mon grand-oncle le désirait ardemment.
Petit ou grand séminaire ou...
Au grand séminaire,
au grand,
oui,
séminaire.
Au grand séminaire. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Il a fait sa carrière différemment. En revanche, toutes les semaines, il y avait 2-3 dominicains qui venaient déjeuner à la maison. Toutes les semaines, il y avait mon grand-oncle, il y avait ses deux amis. L'un était directeur de Sorèze et l'autre était le père Olive. Je ne me souviens plus qui il était exactement. Enfin, je me souviens très bien de lui. Je ne me souviens pas quelle était sa fonction. Mais c'était... Moi, j'ai toujours été élevée là et j'ai été baptisée catholique parce que ma mère était une catholique fervente, oui. Absolument.
On priait dans votre famille peut-être au...
Avec ma maman, oui.
On y reviendra parce que, évidemment, dans cette émission aussi, on vous posera ce type de questions puisque vous avez accepté qu'on vous les pose. Vous êtes donc, j'allais dire d'abord, pas vraiment, mais en tout cas, vous êtes surtout connue donc, pour être la fondatrice de cette association et donc médecin. Vous êtes donc médecin réanimateur. Alors, vous m'avez fait suivre votre CV, c'est impressionnant. On sent que vous êtes une femme qui ne cesse d'aimer apprendre. Hein, je pense,
oui,
qu'on peut dire ça.
Ça, c'est clair.
Donc, vous avez fait d'abord des études donc, de médecine, anesthésiste, réanimation, c'était donc à Toulouse, c'est ça?
Oui.
Vous pouvez nous dire un mot de cette spécialité qu'on ne connaît peut-être pas très bien?
J'ai toujours aimé l'urgence. J'ai toujours aimé ce qui bouge. Et donc, pour moi, c'était... je ne sais pas comment vous dire. J'aimais le bloc opératoire. J'aimais un petit peu ce qui faisait monter l'adrénaline, quoi, ce qui était un petit peu dangereux. Je n'aurais jamais fait de la dermatologie. Je suis très admiratrice des dermatologues, parce que moi, je n'y comprends rien. Mais il me fallait quelque chose qui bouge. Alors, c'est vrai que c'était la réanimation. Je me souviens toujours, j'avais 15 ans, quand le premier SAMU est passé place Jeanne d'Arc, et je me suis dit qu'un jour, je monterais dedans. Et effectivement, j'ai été médecin 2 ans au SAMU de Toulouse. Parce que pour moi, c'était quelque chose d'important. J'aimais ce qui bougeait, je voulais sauver.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus ce métier? Parce que, enfin, nous, vu de loin, pardon, vous avez trouvé ça très grossier, mais c'est quand on rentre au bloc, c'est la personne qui nous pique et qui nous tient par la main avant qu'on s'endorme et après on ne la revoit pas. C'est...
Alors, actuellement, l'anesthésiste, c'est celui qui voit le patient avant, c'est celui qui le rassure. C'est celui qui choisit un type d'anesthésie qui correspond bien aux pathologies du patient ou aux non-pathologies du patient, qui correspond bien à la psychologie du patient, ça j'insiste beaucoup, parce que c'est pas tout l'un ou tout l'autre, il y a des patients qui ont peur d'être endormis, des patients qui ont peur de ne pas être endormis. C'est celui qui surveille, c'est celui qui finalement surveille vos fonctions vitales tout le temps de l'anesthésie.
Donc en fait vous restez là?
À tout le temps, bien sûr.
Non, je plaisante, mais c'est vrai que comme on dort, on ne sait pas ce qui se passe derrière.
Oui, on dit toujours que sur les abords de l'anesthésie, il y a du café, mais c'est pas tout à fait vrai, vous savez.
Donc vous êtes médecin anesthésiste, alors vous avez entre autres comme particularité, je crois que vous y tenez, vous êtes allé aux États-Unis où vous,
oui,
êtes donc à nouveau, enfin vous êtes un peu spécialisé, c'est ça? Vous avez fait un diplôme approfondi en toxicologie,
oui.
Non, ça c'était en France.
Oui, oui. Non, c'était, aux États-Unis.
Et alors vous avez, semble-t-il, en tout cas dans un article que vous m'avez fait suivre du quotidien du médecin de 2018, vous avez croisé un homme qui vous a marqué, le professeur Franck Guerrera.
Franck Guerrera.
Pourquoi est-ce qu'il vous a marqué, cet homme ?
Alors, il m'a marqué parce que j'aime ce type de personnalité. C'était un psychiatre anesthésiste. Donc, il m'a apporté l'abord psychologique du patient qui va être endormi. Il m'a appris ses angoisses. Il m'a appris son ressenti. Il m'a appris ce que je devais dire et ce que je ne devais pas dire. Il m'a appris à m'intéresser à l'hypnose et à tout ce qui n'était pas... conforme tellement en anesthésie, quoi. C'était pas académique. Mais il m'a appris à m'intéresser à tout ce qui pouvait améliorer le patient autour de son intervention chirurgicale. Vous savez, nous, le bloc opératoire, on y rentre tous les matins. Vous, si vous y allez une fois, deux fois, trois fois dans votre vie, c'est toujours un stress immense. Donc l'anesthésiste, ce n'est pas uniquement celui qui fait dormir. C'est celui qui entoure, c'est celui qui surveille, c'est celui qui réveille, c'est celui qui fait en sorte que le réveil se passe bien, et c'est celui aussi qui suit le patient après dans le service, qui gère la douleur, qui gère les inquiétudes.
Il paraît que c'est un métier de plus en plus difficile à exercer parce que, enfin, j'avoue, pour une fois, je vais parler de moi, j'ai un père médecin qui m'a toujours dit, mon Dieu, médecin, le métier d'anesthésiste, je vais y arriver. C'est de plus en plus compliqué parce qu'ils doivent avoir ils doivent se couvrir, en fait, en cas de recours judiciaire et ça leur complique beaucoup la vie.
Alors, nous avons effectivement des responsabilités civiles qui sont très importantes. Mais il faut savoir aussi que L'accident d'anesthésie, il y a 40 ans, quand j'ai commencé, j'avais des bombes dans les mains. Actuellement, nous avons tous les appareils de surveillance que je n'avais absolument pas il y a 40 ans. Nous avions nos yeux, nos oreilles, nos mains pour le patient, mais nous avions très peu d'appareils de surveillance. Alors que maintenant, tout est bien codifié. Le risque zéro n'existe jamais. C'est un métier difficile, mais vous savez, encore une fois, ce sont des techniques, et quand on les possède bien, et quand on est bien présent, le risque est minime.
Alors, c'est pas un métier donc, que vous exercez à fleur et moucheté, pour le coup, mais bien réellement. Alors, vous l'avez dit donc rapidement, vous êtes spécialisé dans... Enfin, vous avez complété votre formation, et entre autres en hypnose ericksonienne,
oui.
Et donc en homéopathie, ce qui oui. vous a valu de pas toujours être tout à fait comprise.
Absolument.
Pour l'une comme pour l'autre, je connaissais un petit peu le sujet, mais en me plongeant dedans, j'ai vu qu'en fait, il y avait encore toujours des avis très contradictoire. Hein. Oui. L'homéopathie, la page Wikipédia, c'est impressionnant. Pratique oui. pseudo-scientifique, méthode alternative inventée, croyance, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'une et de l'autre? C'est du sérieux?
Ah oui, c'est du sérieux. Oui, c'est du sérieux. Alors, c'est différent, l'hypnose et l'homéopathie. L'hypnose, il faut que ce soit très bien et parfaitement pratiqué. Je veux dire, il faut savoir quand même qu'on peut faire une formation de 48 heures en hypnose et s'installer hypnothérapeute.
Oui, alors c'est pas de l'hypnose comme on voit à la télé. Hein,
non, c'est pas la voilà. même du tout. Moi, ce que j'utilisais en hypnose, c'est l'hypnose d'accompagnement. Moi, il n'y a pas de spécialité de pédiatrie, mais je suis anesthésiste pédiatrique. J'ai beaucoup pratiqué en pédiatrie.
Pédiatrique, c'est donc pour les enfants.
Pour hein. les enfants, c'est ça. Et c'est vrai que, qu'endormir un enfant en détournant son attention, en pratiquant un petit peu d'hypnose, eh bien, ça donne une manière, c'est une manière beaucoup plus simple de leur faire accepter l'anesthésie par inhalation. C'est un masque. Le masque, c'est rien. On leur parle bien d'un masque à la framboise ou à la vanille, mais enfin, il y a quand même un anesthésique qui ne sent pas très bon dedans. Et on arrive, par des techniques hypnotiques, à le faire accepter, ce masque, sans pleurer. Vous savez, moi, à la fin de ma carrière, le challenge, c'est pas d'endormir un enfant. C'est pas de pousser ce qu'il faut pour endormir un enfant. C'est de dire qu'au bout de la matinée, où avec mon chirurgien ORL, que j'aime beaucoup, j'ai endormi 8 ou 10 enfants, et qu'aucun d'eux n'a pleuré, c'est ça mon challenge. Actuellement, à mon âge, c'est celui-là.
Alors, l'hypnose ericksonienne, si tu devais la présenter, qu'est-ce que c'est pour, on va dire, la version pour les nuls, ça serait quoi?
Vous êtes sûr qu'on aura le temps, là?
Allez, en deux minutes, un challenge, vous aimez ça, non?
J'aime le challenge.
Je vous fais rentrer au bloc.
Alors, l'hypnose, c'est une manière de transformer une transe, pour moi, en anesthésie, c'est une manière de transformer une transe négative en une transe positive. C'est-à-dire que un patient qui arrive au bloc opératoire, c'est j'ai peur, et c'est de tout modifier de manière à ce qu'il dise je suis en confiance, je suis confortable, et je vais m'endormir tranquillement.
Et alors, cette transe, c'est quoi? C'est un état de conscience un peu modifié?
C'est un état de conscience modifié.
Endormi, c'est ça?
C'est un état de conscience modifié par notre parole. Par nos paroles et par notre timbre de voix.
On peut dire peut-être un mot de la manière dont ça a été inventé aussi, quand même. C'est quand même important, non? Le professeur Milton Erickson qui s'était auto-hypnotisé,
en fait,
traiter une paralysie résultant d'une poliomyélite, c'est ça?
Absolument. Absolument. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup l'auto-hypnose aussi. C'est-à-dire que, vraiment pour mes sportifs, par exemple, je leur apprends à se mettre en transe eux-mêmes avant une compétition pour arriver à être le plus décontracté et sans stress, ou le moins de stress possible, tout au moins le stress positif.
Est-ce que vous diriez que vous avez une carrière de médecin classique, ou est-ce qu'au contraire, vous vivez comme un médecin un peu original, un peu en marge même?
En marge, pas vraiment. Si j'ai pratiqué l'homéopathie, alors c'est vrai que c'est très controversé l'homéopathie, c'est parce que en pédiatrie, vous savez, on ne peut rien utiliser comme médicament. Il y a très peu de médicaments qui ont une autorisation. Donc, j'ai été amenée à m'intéresser à d'autres possibilités pour mes petits. Et 20 ans de pratique de l'homéopathie m'ont montré que ça marchait très très bien, que j'avais des enfants qui arrivaient beaucoup plus tranquilles au bloc opératoire, que j'avais des enfants qui avaient moins mal après. Alors je n'ai pas de preuves scientifiques, c'est vrai, mais j'ai quand même plus de 20 ans d'expérience en homéopathie. Et ce qui est paradoxal, c'est que mes chirurgiens demandent de l'homéopathie pour eux-mêmes, parce qu'ils ont vu les résultats.
C'est étonnant, oui, et il ne vous demande pas d'études scientifiques. Une petite anecdote, si vous l'avez citée dans cet article du quotidien du médecin, c'est qu'on imagine qu'elle vous fait sourire, elle nous fera sourire aussi. Vous aviez sur les bancs de l'école un certain Philippe Douste-Blazy, un camarade de classe.
Qui est toujours mon ami de cœur.
Ah voilà, avec qui, semble-t-il, vous partagiez les tableaux d'honneur. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Ça, c'est ce qui a été marqué, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que Philippe...
Ah, c'est journaliste.
Voilà, Philippe était au lycée de garçons, et moi, j'étais au lycée de filles. Et on se retrouvait à la fin des classes. Et c'est toujours un grand ami de cœur. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais c'est réciproque. Et nous nous sommes retrouvés sur les bancs de la faculté de médecine. Voilà, avec toujours la même... Je le connais depuis que j'ai 14 ans.
Allez, on fait une première pause et puis après on va parler escrime et de cette association Riposte.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Dominique Cornus, Dragne. À la fin de l'envoi, je touche. C'est donc, pour rappel, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission Portrait de vous. Vous êtes, pour ceux qui nous rejoindraient, et pour rappel, médecin anesthésiste réanimateur, ancien médecin fédéral national de la Fédération française d'escrime. On aurait pu même rajouter, il fut un temps, de la Fédération handisport. Et vous êtes présidente fondatrice de l'association Riposte. Donc, comme l'introduction le laisse entendre, on va parler escrime. C'est pas vraiment de l'escrime, mais Cyrano de Bergerac, c'est un film que vous aimez regarder avec plaisir.
Ah oui, Cyrano de Bergerac, Le Bossu, oui, bien sûr.
Ça veut dire que vous, quand vous regardez ça, vous comprenez aussi ce qu'ils font à l'épée ?
Oui, bien sûr.
Ah oui ?
Bien sûr. Mais j'ai commencé l'escrime, j'avais 10 ans.
Vous êtes capable de nommer, en fait, les parades et autres ?
Ah oui.
Ah oui, quand même.
Ah oui.
Alors, l'escrime, semble-t-il, est rentré dans votre vie assez jeune. On sent à votre tempérament que quand vous avez une idée, en général, elle reste. Là, ça vous a pris à 6 ans. Vous pouvez nous raconter un petit peu dans quelles circonstances ?
C'était un petit peu plus tard, là aussi. J'avais 10
ans,
j'étais en 6e.
Ce journaliste, hein,
oui,
on ne donnera pas son nom. Hein.
Non, j'avais 10 ans, en fait. J'avais 10 ans et j'étais, contrairement à ma sœur, j'étais particulièrement pas sportive. C'est-à-dire que c'est une catastrophe, j'ai appris à nager tard et je n'étais pas sportive du tout. Puis un jour, à l'étude, j'étais en début de sixième, j'ai vu une fille de mon âge arriver avec un fleuret qui dépassait de son sac. Ça m'a complètement, moi qui avais été, qui adorais Thierry Lafronde, qui adorais Zorro, qui adorais, enfin pour moi c'était mythique. Je me suis dit, il y avait l'escrime à Saint-Cernin. Donc j'ai été faire la connaissance du maître d'armes et j'ai demandé à mes parents de me laisser faire de l'escrime. Alors je vais vous dire, c'était pas simple à ce moment-là, parce que j'avais 10 ans en 63, et en 63, il y avait très peu de filles en escrime, c'était un sport de garçon, et je ne peux pas dire que maman était contente que sa fille parte se battre à coups d'armes blanches, mais bon, j'ai fait quelques compétitions. Je n'ai jamais été de haut niveau, mais c'est resté une passion.
Alors, faites-nous un peu l'escrime pour les nuls. On voit un peu, entre guillemets...
Alors, qu'est-ce que je voudrais de l'escrime ? Il y a trois armes.
On voit la tenue, hein ?
Voilà, la tenue est blanche. C'est très important pour celui qui repose la tenue. Il y a trois armes en escrime. Il y a le fleuret, l'épée et le sabre. Disons que le fleuret, c'est l'arme d'étude. Et c'était l'arme d'étude pour faire des duels. C'est un sport très européen, d'abord. C'est l'arme d'étude. Donc, quand on apprend, eh bien, on apprend à toucher avec la pointe. On vise le cœur. Donc, c'est une arme conventionnelle où il y a celui qui attaque, celui qui part. Il y a des règles très précises. Et il n'y a que le tronc qui puisse être touché. Ensuite, l'épée, c'est l'arme de duel. Donc, le duel, vous comprenez bien que vous pouvez toucher partout. Et que si les deux sont touchés, eh bien, les deux sont morts. Et donc, il y a une touche partout. Donc c'est une arme non conventionnelle, ce qu'on appelle non conventionnelle, c'est le premier qui touche, et si les deux touchent, il y a une touche partout. Voilà, c'est une arme que je n'ai jamais pratiquée personnellement, l'épée, c'est une très belle arme, mais non. Et le sabre, alors le sabre c'est l'arme des cavaliers.
Qui n'est pas un sabre, il faut peut-être le préciser aussi.
Qui n'est pas, alors le sabre c'est très léger, c'est aussi léger qu'un fleuret, ça pèse 500 grammes un sabre. Et c'est une arme qui s'appelle des stocks et de taille. Ça veut dire quoi ? Qu'on touche avec la pointe, qu'on touche avec le tranchant. Et c'est l'arme des cavaliers. Quand vous vous battez contre un cavalier, vous ne visez pas le cheval, vous êtes d'accord avec moi ? Donc les touches sont au-dessus de la ceinture. Et c'est l'intérêt dans Solution Riposte.
Ça, c'est pour la présentation. C'est un sport qui est né où ?
Ouf, c'est très ancien, l'escrime.
Bonne question.
Oui. C'était, alors, je peut-être pas, pourtant j'aime beaucoup l'histoire de l'escrime, mais les premiers, c'était les Italiens et les Français. Hein.
C'est un sport de gentleman, comme on dit aussi.
Ah, c'est un sport de gentleman, c'est un sport de respect. C'est un sport de respect, c'est un sport de fair play. Il y a encore dans pas mal de salles d'armes les recommandations sous Louis XIII. Et les recommandations de Louis XIII, c'est tu redresseras ton adversaire à terre, tu diras bonjour, tu diras merci. Et les règles en escrime sont très strictes. Et il faut savoir qu'un escrimeur qui refuse de serrer la main à son adversaire, il est exclu, il est banni de toute compétition nationale ou internationale. Secondairement, si on a un geste déplacé, on peut être viré d'une salle d'armes. Pas beaucoup de sport, c'est vrai.
C'est un sport de combat, vous diriez, ou un art martial,
comme actuel, on dit, ce n'est pas un art martial. Les arts martiaux sont asiatiques. C'est un sport de combat, c'est un sport d'opposition. C'est un sport duel. C'est un sport où il faut faire avec l'autre. C'est-à-dire faire en fonction de l'autre.
C'est-à-dire qu'on fait autant avec que contre.
Oui, on fait autant avec que contre. Et il y a une définition qui dit que l'escrime, c'est une conversation par les armes entre gens courtois.
Dites donc, redites-nous ça.
L'escrime, c'est une conversation par les armes entre gens courtois. Et chaque mot a son importance.
Donc, c'est une passion pour vous ?
Oui.
Vous diriez ?
Oui.
Alors, comme vous avez l'air de tout faire passionnément, la médecine et l'escrime, un jour, ça s'est rencontré. Comment ça vous est venu ? Cette fois, je ne reciterai pas le quotidien du médecin, parce que j'ai l'impression qu'elle disait beaucoup de sottises.
Oui, il y en a quelques-unes, pas beaucoup, mais quelques-unes. Comment ça se fait ? Écoutez, moi, j'ai eu la chance, pendant mes 40 ans d'anesthésie, de travailler avec des chirurgiens avec qui je me suis toujours très bien entendue. Et je travaillais en osmose avec un chirurgien gynéco qui s'appelle Jean-Luc Maninck et qui était marathonien. C'est vrai qu'on était au bloc tous les deux et on parlait beaucoup. Et c'est un chirurgien très humaniste. Pour lui, je vais vous dire quelque chose de particulier. Il n'opérait pas des seins, mais des femmes qui avaient un cancer du sein. Vous voyez la différence. Et il me parlait justement de ce problème d'épaule qui rentrait, de ce problème d'épaule qui tombait, de ce problème de combat, de un petit peu d'être terrassé par cette maladie. Et puis on commençait en 2008 à sortir des études qui montraient qu'une activité physique après un cancer du sein diminuait les récidives et améliorait la qualité de vie. Donc je lui ai proposé l'escrime. J'ai mis un moment quand même, hein. Et là, elle n'a pas menti sur le quotidien des médecins. J'ai mis un moment à décider Jean-Luc, parce que lui, il disait, mais non, on leur dit de marcher. Mais vous savez, marcher, si vous êtes tout seul, que vous êtes fatigué par votre chimiothérapie et que vous ne savez pas où aller, vous n'allez pas marcher. Et finalement, à force de faire des réunions, il y avait quand même un maître d'armes, un kinésithérapeute, ce chirurgien, un universitaire de médecine du sport, on a fait beaucoup de réunions et quand il a vu la position de garde, il a compris qu'effectivement l'escrime pouvait être bon.
Donc riposte aînée, c'était en 2014, oui. donc évalué que ce n'était pas dangereux, c'est ça?
Absolument, on a commencé en 2010 à prendre certaines patientes en leur disant, certaines patientes qui sont devenues des escrimeuses, en leur disant, écoutez, on essaye et on va voir si ça vous fait du bien. On les a évaluées avant, après, puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'effets bénéfiques. Et des effets bénéfiques auxquels on n'avait pas pensé. Il y a une escrimeuse qui m'a dit, mais tu vois, j'avais perdu, c'est une très jolie dame, j'avais perdu cette image de moi-même, et l'escrime, c'est un sport élégant. Et cette élégance de l'escrime, c'est quelque chose qui est très important pour elle. Ensuite, c'est le sport de combat. Ensuite, c'est un sport qui mobilise cette épaule qu'elle n'arrive plus à mobiliser. Alors, et il y a eu un tel engouement que beaucoup de maîtres d'armes sont venus se former à Toulouse.
Avant qu'on dise un peu l'étendue de l'association aujourd'hui, riposte, ça signifie ?
Riposte, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont mes riposteuses. C'est reconstruction, image de soi, posture, oncologie, santé, thérapie, escrime.
Parce que pour ceux qui ne connaissent pas bien ce cancer, en fait, quand il y a un cancer du sein, il y a souvent donc une ablation du sein.
Pas toujours, pas mais toujours. Même quand il n'y a pas d'ablation du sein, on va chercher un ganglion qui s'appelle un ganglion sous le bras. Alors, quelquefois, ça reste à enlever un seul ou deux ganglions, c'est le ganglion sentinelle, quelquefois beaucoup plus. Et à ce moment-là, ça donne une épaule qui se fige, une épaule qui ne peut plus bouger, en particulier en hauteur. Et certains gestes tout simples de la vie quotidienne qui ne peuvent plus se faire.
Mais pendant un temps ou ça dure c'est...
Ça peut durer longtemps.
Ah oui.
Ça peut durer très longtemps. C'est se coiffer dans la nuque, c'est porter un enfant, c'est ouvrir des rideaux, c'est attraper des tasses dans le placard en hauteur. Ce sont des gestes qui tous les jours rappellent 20 fois qu'une femme a eu un cancer du sein. Ce qu'elle veut oublier, elle ne peut pas.
Alors donnez-nous un exemple, peut-être un visage et un prénom d'une femme qui donc s'est lancée dans l'aventure de riposte et à qui ça a fait du bien. Pourquoi ça lui a fait du bien?
Écoutez, je vais vous parler de Blandine. Blandine qui est une maman de 8 enfants et qui a appris juste après son 8e enfant qu'elle avait un cancer du sein. Et qui vraiment, alors je parle d'elle aussi parce que d'abord parce que je l'aime beaucoup, et ensuite parce que elle a fait l'objet d'un petit clip sur TF1 il n'y a pas très longtemps dans Plus fort grâce au sport, parce que elle reconnaît qu'elle s'est vraiment reconstruite avec ce sport. Et Blandine, elle a dit quelque chose, j'ai appris à être dans le monde et non plus dans mon monde. Ça, c'est les mots de Blandine et je trouve ça fabuleux. Et c'est, si vous voulez, c'est quand je vois des femmes comme Blandine qui peuvent exprimer ça, que je me dis que j'ai, quelque part, j'ai gagné ce que je voulais, quoi. C'est-à-dire vraiment faire du bien. Quand j'en ai une, quand je passe dans une salle d'armes, quand j'en ai une qui a un peu des larmes dans les yeux et qui me dit merci, elle ne peut pas dire autre chose, mais c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup et qui me permet de tenir, parce que ce n'est pas facile d'avoir une association comme ça à bout de bras.
Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ce qui se passe exactement dans la salle d'armes? Donc vous dites que à la fois la tenue d'escrime, la garde, la cible, la coordination, l'amplitude des mouvements, tout est important.
Tout est important et tout est travaillé surtout. C'est-à-dire qu'on ne permet pas à un maître d'armes de prendre en charge ses riposteuses, c'est elles qui choisissent de s'appeler des riposteuses, sans avoir une formation et une formation continue. Voilà, il y a une formation initiale qui est faite à Toulouse et je tiens absolument à ce que tous les maîtres d'armes aient eu cette formation initiale. Ce que je veux, ce que je demande, c'est qu'une femme qui a eu un cancer du sein et qui arrive face à un maître d'armes, ils connaissent toutes les recommandations des sociétés savantes pour pouvoir faire ce qu'il faut, qu'ils connaissent les gestes qu'il faut éviter et les gestes qu'il faut leur faire faire, à savoir en particulier les parades hautes. Et il faut surtout qu'elles puissent parler de n'importe quoi et qu'ils soient au courant, qu'ils sachent ce que c'est que la kinésithérapie, qu'ils sachent ce que c'est que la psychologie d'une femme atteinte d'un cancer du sein, qu'ils sachent ce que c'est que la diététique nécessaire, qu'ils aient toutes les connaissances nécessaires pour qu'elles puissent arriver, rentrer dans l'action sans poser de questions. Et sans qu'on leur pose de questions, surtout.
Ça vous a valu donc plusieurs prix, je le disais au début de l'émission, entre autres donc Femme version féminin, c'était en 2014, entre autres donc, parce que vous avez été aussi décoré à d'autres reprises, entre autres fait chevalier de l'Ordre du Mérite en 2016, on peut imaginer qu'il y a un petit lien de cause à effet. Aujourd'hui, riposte, existe dans... Il y a combien de salles d'armes en France? Combien de femmes
qui
passent?
Il y en a 80 à 90, un millier de femmes chaque année.
Un millier?
Oui.
C'est beaucoup, c'est pas beaucoup?
Oh, c'est beaucoup, oui. C'est beaucoup. Vous savez, Moi, je ne dis pas que toutes les femmes qui ont eu un cancer du sein doivent faire de l'escrime. Je voudrais qu'on puisse leur proposer un sport, de manière, un sport qui leur plaise, et avec lequel elles se fassent plaisir. Parce que si elles ne se font pas plaisir, elles ne reviendront pas, simplement parce qu'elles sont fatiguées. Et beaucoup de femmes qui pratiquent l'escrime me disent « J'en ai toujours rêvé, mais il n'y en avait pas dans ma ville, mais c'était trop cher pour moi. » Parce que dans le temps, effectivement, c'était pas bon marché de faire de l'escrime. Maintenant, c'est beaucoup mieux.
Alors, il faut dire que vous prenez en charge une partie des frais.
On prend en charge la première année intégralement, pour qu'il n'y ait pas de différence. C'est-à-dire, en pratique, si on admet que pratiquer un sport fait partie d'une thérapie, il n'y a aucune raison que certaines puissent avoir cette thérapie et pas d'autres. Donc, Solution Riposte demande à tous les présidents de clubs qui ont le label Solution Riposte de s'engager à avoir un maître d'armes formé, à ce que ce maître d'armes fasse la formation continue et à prendre en charge la première année tous les frais. Les frais, les leçons, l'assurance et le matériel.
Vous plaidez aussi, si j'ai bien compris, pour que la Sécurité sociale rembourse le sport comme une pratique thérapeutique, c'est
oui,
ça ?
Oui, bien
en
sûr.
En général ou dans des circonstances particulières comme ceux d'un cancer ?
Non, je crois en général, parce qu'on sait très bien que c'est une thérapeutique. Alors encore faut-il bien sûr qu'il y ait l'observance, encore faut-il que... C'est compliqué pour la Sécurité sociale dans la mesure où on ne peut pas faire un chèque en blanc. Mais effectivement, il y a dans certaines régions, bon pas ici, mais dans certaines régions, il y a l'ARS qui finance Solution Riposte.
Vous avez eu donc des responsabilités donc dans la Fédération française d'escrime jusqu'à il y a peu, donc médecin fédéral national, et puis pour la même responsabilité pour la Fédération française handisport. D'ailleurs, pour ceux qui suivent de manière très assidue cette émission, vous étiez venu avec un champion d'escrime handisport
oui,
qui s'appelle,
vrai.
Je me souviens plus de
Maxime
son nom.
Vallée.
Maxime Vallée. Ça consiste en quoi on peut lire, entre autres, qu'à l'occasion de certaines victoires récentes, si je ne me trompe pas, enfin en tout cas qu'on a pu suivre, les sportifs, juste après la victoire, se jetaient dans vos bras.
Oh, il y en a une qui l'a fait, oui. Une qui l'a fait une fois à Saint-Pétersbourg. Bon, elle s'appelle Laura Flussel, alors effectivement, ça m'avait fait particulièrement plaisir. Mais après, vous savez, j'ai toujours le souvenir à Rio. Je suis toujours médecin de discipline escrime de la Fédération française handisport et médecin des équipes de France. Donc je suis mes petits, j'étais à Rio. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis sentie...
Vous êtes toujours médecin pour la...
Ah
pour,
oui,
pour
tout, le, complètement.
Pour
oui.
Le handisport.
Je ne suis plus médecin de la Fédération française d'escrime, mais je suis toujours médecin de discipline escrime, médecin fédéral de discipline escrime de la Fédération française handisport.
D'accord.
Oui, je suis toujours mes petits, je les appelle mes petits, bien qu'il y en a certains qui ne soient pas beaucoup plus jeunes que moi, mais ce n'est pas grave. Mais je me souviens toujours de Rio, où j'étais sur la piste, parce que j'étais le médecin, donc j'étais sur la piste, et j'avais Maxime qui était aussi sur la piste et qui a gagné, et j'arrêtais pas de pleurer en me disant, mais si les journalistes mettent leur caméra sur moi, je vais être complètement ridicule, j'ai ma tenue de médecin, j'ai ma trousse de médecin, et je suis en train de pleurer comme une madeleine.
Pourquoi est-ce que c'est si important un médecin pour un escrimeur ou une escrimeuse ?
C'est important pour tous les sportifs.
C'est quoi ? C'est un peu le coach ? C'est le coach,
non,
le
confident ?
Ah non,
c'est pas le coach. Le médecin est là pour protéger la santé des sportifs. Pour protéger la santé des sportifs, pour les traiter immédiatement s'ils ont une blessure, sur la compétition pour juger s'ils peuvent continuer ou pas. Parce qu'il y a quand même des lésions sur lesquelles il ne faut pas continuer. Et pour les traiter immédiatement. Voilà. Mais après, il faut un suivi, et en particulier en handisport. Il faut connaître, parce que le handisport, c'est bien sûr de la médecine du sport, mais c'est aussi de la médecine générale, parce que les personnes en situation de handicap, certains ont un handicap qui n'évolue pas ou ont peu de problèmes, mais il y en a d'autres qui peuvent présenter des problèmes médicaux. Il faut bien les connaître.
Vous dormez ou pas ? Parce que ça fait beaucoup quand même pour vous, non ? Vous êtes médecin.
Oui, mais j'ai une grosse puissance de travail.
Handisport.
Oui, j'ai une grosse puissance de travail.
Vous pratiquez encore l'escrime aussi ?
Non, là, je ne peux plus là maintenant. Ah. Je suis une vieille dame.
Voilà, en tout cas, Laura Flessel qui a tiré un coup de chapeau, qui a été une de vos marraines pour la...
Ça a été la première marraine, voilà, oui. Et actuellement, c'est Cécilia Berder.
Pour l'association Riposte qui dit l'abnégation d'une passionnée d'escrime qui, au travers son action, transmet les valeurs essentielles de combat, de respect de soi et d'autrui. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour vous connaître encore un petit peu plus. Vous allez nous parler de quelques figures qui vous sont chères. Et puis, comme toujours dans cette émission, on vous posera quelques questions sur ce qui vous fait vivre et quels sont vos croyances. Croyance.
Emmanuel Pella.
Dominique Ornus, à la fin de l'envoi, je touche. C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission portrait de vous. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur, médecin fédéral de la discipline escrime de la Fédération Handisport, puisque j'ai remis ma fiche à jour au long de cette émission, et présidente fondatrice de l'association Riposte, dont on a parlé avant cette pause. Et ceux qui découvriraient cette émission, l'association Riposte, c'est une association qui propose à des femmes qui ont eu un cancer du sein surtout, hein.
Oui, surtout cancer du sein.
Cancer du sein, de relever la tête et de combattre la maladie, même si elle est passée via l'escrime. Alors, pas de surprise pour vous, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu plus de vous, parce que quand on croise des personnalités comme les vôtres, on se demande toujours quand même d'où ça leur vient, qu'est-ce qui fait qu'elles se lèvent le matin et autres. Alors, vous vouliez commencer par nous parler de quelques figures. La première, qui semble-t-il vous est chère, c'est Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, grande figure s'il en est, hein, qui a reçu le prix Nobel de la paix, qui est donc un médecin, théologien du 19e, début 20e. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez de lui ? Qu'est-ce qui vous frappe, qui vous plaît dans cette personnalité ?
Alors, ce qui me plaisait, et ce qui me plaît toujours, dans la personnalité d'Albert Schweitzer, c'est d'abord qu'il avait plusieurs compétences et qu'il a pu, il est allé jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire grâce à ses compétences. Il a commencé par être théologien, pasteur, il était musicien et puis il a connu l'Afrique, il a voulu œuvrer en Afrique, il a fait ses études de médecine à ce moment-là pour se donner les moyens, il a même fait de la chirurgie et pour construire l'hôpital de l'Embarrené.
Rappelez donc pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'il est parti faire en Afrique.
Il est allé fonder l'hôpital de l'Embarrené, c'est-à-dire en fait, il est allé faire un des premiers, au début dispensaire, et puis ensuite un très gros hôpital.
En pleine forêt équatoriale.
En pleine forêt équatoriale. C'est une personnalité, moi j'ai toujours été fascinée par Albert Schweitzer, et je me souviens d'un jour où il y avait, vous savez, les forums des métiers qu'il y a dans certains lycées, et je devais être en première, et je vais voir le médecin scolaire. Je n'ai pas été voir les autres métiers, parce que de toute manière, depuis que je suis petite, je sais que je veux être médecin. Je n'ai jamais changé d'idée. Donc je vais voir le médecin scolaire, et je lui dis, je veux partir comme Albert Schweitzer, je veux partir faire de l'humanitaire en Afrique ou ailleurs. Et elle m'a répondu, je m'en souviendrai toujours, c'était Madame Lanus-Crousset, elle m'a répondu, vous savez, l'humanitaire, on peut en faire près de chez soi. C'est une phrase qui m'est toujours restée. C'est un des rares contacts que j'ai eu avec ce médecin, mais ça m'est resté, et c'est vrai qu'Albert Schweitzer, j'admirais ce pluralisme. Je veux dire, cet homme qui allait jusqu'au bout de ses passions et qui, malgré l'histoire et malgré tout, est allé au bout de ses passions. Et surtout, j'admire les personnes qui sont capables d'avoir plusieurs compétences. Et chaque fois avec l'excellence. Il a fait beaucoup de concerts qui lui ont permis de financer l'hôpital de Lambrecht. Grand organiste. Il a fait beaucoup de concerts, même aux États-Unis, qui lui ont permis de financer ce qu'il lui fallait à l'hôpital de Lambrecht. Et ça c'est quelque chose qui était très fort pour moi.
Prix Nobel de la paix, on sait que c'était oui. Donc en 1952. Il y a une autre personnalité comme ça que vous aimez beaucoup, qui est peut-être un peu moins connue, quoique, peut-être pas pour une certaine génération, Alain Calmat, qui est donc un ancien patineur artistique et qui a brillé. Hein. Vous pouvez nous présenter ce patineur, cet homme qui est, je crois, un ami aussi pour vous?
Oui, maintenant c'est devenu un ami. J'étais très honorée qu'il m'appelle pour travailler avec lui au comité olympique. Et en pratique, Alain Calmat, c'était un patineur de très haut niveau qui a été vice-champion olympique, qui a été champion du monde et qui avait un but. Bah, c'est un petit peu la même chose qu'Albert Schweitzer.
Donc, dans les années 60, hein, il faut
oui,
dire.
Oui, dans les années 60.
Champion du monde 1965.
Absolument. Et il avait un but, c'était d'être chirurgien. Donc il a été capable d'arrêter sa carrière de sportif de haut niveau pour pouvoir passer l'internat, être interne et chef de clinique des hôpitaux de Paris et être chirurgien. Et après, il a été ministre de François Mitterrand. Et il a toujours œuvré, pareil, pour les plus vulnérables, pour le sport pour tous. Et il continue, parce que c'est le médecin de la commission médicale du Comité national olympique et sportif français. C'est lui qui a créé le médico-sport santé, c'est-à-dire en pratique, il investit les fédérations pour qu'elles travaillent sur la pratique, l'adaptation de leur sport à la santé. C'est très visionnaire, ça fait un moment qu'il travaille.
Pourtant, il a un certain âge, hein.
Il a 80 ans, mais il est toujours aussi...
Et il est président de la commission médicale du Comité
absolument.
National Olympique et Sportif français.
Oui, absolument. Et toute sa vie, il l'a tournée vers les autres et vers le bien, en alliant le sport et la médecine.
Alors, j'ai lu aussi que c'était un patineur d'une grande élégance, doté d'un sens artistique inné, c'est...
Oui.
On va dire un homme d'une certaine époque, avec une certaine élégance sur les pistes comme à l'extérieur, c'est
ça ? C'était fabuleux. Je pense que toutes les femmes de ma génération et un petit peu plus étaient fascinées par Alain Calmat. Mais au-delà du patineur et de l'admiration que j'avais pour le patineur, quand je l'entendais dire « je vais arrêter parce que je veux être chirurgien », pour moi c'était quelque chose de très fort, parce que c'était une forte personnalité qui était capable d'arrêter les paillettes pour avoir un métier pour le bien des autres.
Alors, quand vous m'en avez parlé en préparant l'émission, on avait l'impression que c'était devenu une espèce de mentor pour vous. Pourquoi c'est une espèce de mentor ?
Si vous voulez, c'est quand même quelque chose d'avoir été en admiration devant une personnalité jeune et de le retrouver et d'avoir l'honneur de travailler près de lui, beaucoup plus âgé, en retrouvant la même vivacité, le même altruisme. Je veux dire, pour moi, c'est quelqu'un que j'admire. Et c'est vrai que, comment vous dire, j'aime être dans son sillage.
Qu'est-ce qu'il vous apprend ou qu'est-ce qu'il vous apporte, vous diriez, c'est...
Qu'est-ce qu'il m'apporte ? Le sens politique que je n'ai pas, peut-être. Ça, c'est certain. Parce que
ça, c'est dit.
Ça, c'est dit. Mais vraiment, c'est vrai en plus. Mais j'ai eu un maître qui s'appelait le professeur Louis Laringue, que j'aimais profondément, qui m'a aussi appris beaucoup le sens politique, parce que je ne l'ai pas naturellement. Et eux l'ont naturellement, avec beaucoup d'élégance. Voilà. Et après, surtout, il m'a appris à aller jusqu'au bout. Alain Calmat m'a appris, Monsieur Laringue aussi d'ailleurs, ils m'ont appris tous les deux à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, et quand on a une idée, de la tenir et de ne jamais lâcher.
Alors, on sent que vous êtes donc comme une escrimeuse née, hein, vous ne lâchez pas, jusqu'à la fin de l'envoi je touche, je suis bien content de mon titre parce que ça a l'air de bien vous définir, et vous aimez gagner aussi, c'est ce qu'on entend derrière. Hein. Qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin, Dominique Cornus ? C'est une question très simple, mais c'est une question dans le fond très profonde. Vous sauriez répondre à cette question ?
Alors je vais vous dire, ma vie a changé un petit peu il y a quelques jours, puisque j'ai pris ma retraite d'anesthésiste. Alors je vais vous dire pourquoi je me levais le matin, pour retrouver mes chirurgiens, pour retrouver mes patients, pour retrouver mes associés, pour retrouver les infirmières, parce que c'était une vie d'équipe. Et c'était une ambiance extraordinaire là où je travaillais. J'avais des associés adorables avec qui je m'entendais particulièrement bien et des chirurgiens adorables. D'ailleurs...
Donc c'est votre métier qui vous faisait vivre
quelque
part ?
C'est mon métier qui me faisait lever, oui. C'est mon métier. Et puis le reste du temps, bah, c'était tout. C'était tous les challenges que j'avais pour Riposte. C'était ma famille, mon fils, mes petits-fils. C'est, je veux dire, vous savez, je me souviens quand j'ai été formée à l'hypnose, après la première séance, on a demandé à tous, est-ce que vous avez eu un cadeau dans la vie ? Et il y a un des anesthésistes qui a répondu, non, moi, pas de cadeau. Mais il m'a étonnée, parce que moi, des cadeaux, j'en ai eu des centaines. J'ai eu mes parents, j'ai eu mes frères et sœurs, j'ai eu mon métier, j'ai eu mes chirurgiens, j'ai eu mes associés, mon mari, mes enfants, mon fils, puisque je n'ai qu'un fils, mes petits-enfants, une adorable belle-fille. J'en ai eu des cadeaux dans ma vie. Vous vous rendez pas compte de tout ce que c'est comme cadeau, ça ? Eh bien, on se lève le matin parce qu'on a eu des cadeaux et que ces cadeaux, eh bien, il faut en profiter et puis leur faire profiter de nous-mêmes. C'est-à-dire donner.
Et il faut les rendre, ces cadeaux, quelque part. Enfin, je veux dire, on sent qu'il y a quand même un esprit de service qui vous anime. Si vous vouliez être
Albert
Schweitzer junior.
J'ai toujours voulu m'occuper des plus vulnérables. Ce n'est pas nouveau. Je m'intéresse toujours à ceux qui sont dans la difficulté, qu'elle soit passagère ou qu'elle soit profonde. Et c'est ce goût pour cette vulnérabilité. Enfin, c'est pas le goût pour la vulnérabilité, c'est le goût pour l'aide aux gens vulnérables. Ça, c'est quelque chose qui m'anime très fort.
C'est ce qui vous a amené dans l'handisport, en l'occurrence ?
Oh,
c'est peut-être un
oui,
peu...
c'était...
Ils n'aimeraient pas qu'on dise ça d'eux, mais...
Non, parce qu'ils sont souvent moins vulnérables que beaucoup de valides. Non, ce qui m'a amené dans l'handisport, c'est mon amour pour l'escrime. Et puis, au cours des championnats du monde de Paris, c'était en 2010, le médecin fédéral national de la Fédération Handisport m'a dit « Tu sais, on n'a pas de médecin pour l'escrime. » Et pour moi, escrime-médecin, bah, escrime-médecin, c'est moi, quoi. Donc, j'ai fait connaissance avec mes équipes de France. Et je vais vous raconter une histoire qui est très mignonne. C'est que quand j'ai été faire connaissance avec mes équipes de France, c'était au Menuire. Je prends mon bus, je ne les connaissais pas, mon train, j'arrive. Le maître d'armes vient me chercher avec le camion, puis je vois les télésièges. Je vous avoue que je déteste la neige, je déteste le froid et je déteste, j'ai le vertige. Je vois les télésièges, je lui dis, oh maître, heureusement que c'est de l'escrime, parce que alors, moi, ça, ce n'est pas pour moi. Deux jours après, nous nous retrouvons en montagne et on voit les œufs. Donc je dis, qu'est-ce que je fais là ? On me dit, tu pousses le fauteuil dans l'œuf et tu t'assieds à côté. Très bien, je le fais. Et après, on se retrouve devant les télésièges. Et là, je suis devenue blême. Et j'ai un de mes jeunes sportifs handisport, Ludovic, qui a une seule jambe et qui arrive à cloche-pied comme ça et qui me dit, tu as peur ? Moi, je dis, oui, Ludo, j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai le vertige et que j'ai très peur des télésièges. Ne t'inquiète pas, je vais monter avec toi. Je vais te tenir la main. Et je me suis retrouvée sur un télésiège à 58 ans avec un gamin qui avait 22 ans dont j'avais la responsabilité médicale et qui, toutes les trois minutes, me disait « Tu as moins peur avec moi. » Mais l'handicapé, ce n'était pas celui qu'on croyait.
Alors, qu'est-ce que vous diriez après de Dieu, Dominique Cornus ? C'est aussi une grande question. Comment vous vous situez ? Est-ce que vous croyez que Dieu existe ou pas, déjà ?
Alors, j'ai eu une éducation catholique, comme vous le savez, et très, très forgé par mon grand-oncle qui était dominicain, qui était un très révérend père, qui était père prêcheur. Et que Dieu existe, oui, bien sûr.
À quoi il ressemble, s'il existe alors ? Vous diriez, c'est une certitude lointaine ou proche ? Comment vous le décririez ?
Non, je ne peux pas le décrire. Je le retrouve dans, les gestes quotidiens. Vous savez, je le retrouve dans le. Vous savez, moi, j'ai épousé un calviniste, ce qui n'était pas si simple d'intégrer une famille protestante pour une catholique, parce que c'est vrai que on m'a toujours dit dans ma belle famille que je n'avais pas eu les cours de catéchisme, mais que j'avais eu des cours de morale. Et finalement, peut-être que mon éducation religieuse, ça a été effectivement centrée sur le bien et le faire. C'est le bien et faire du bien. Alors peut-être c'était des cours de morale, mais Dieu, je le retrouve dans mes gestes quotidiens.
Comment vous voyez l'Église aujourd'hui, par exemple le pape François ?
J'ai beaucoup d'affection pour le pape François. Pour une raison très simple, c'est que il est tourné vers les autres et... il essaie de diminuer le regard sévère sur la différence. Il l'a montré à plusieurs reprises. Quand il dit que tout le monde est enfant de Dieu, ça c'est quelque chose de très fort et qu'on ne retrouvait pas chez tous les papes avant lui. La deuxième chose, c'est que...
En tout cas, il ne le disait peut-être pas de la même manière.
Il ne le disait pas de la même manière. Peut-être que j'aime bien cet esprit un peu frangeux du pape François qui exprime les choses, très investi dans le développement durable et dans le respect de l'écologie. Je trouve que c'est quelque chose d'actuel. Finalement, le pape François, sans renier ses principes et les principes de l'Église catholique, il arrive à à changer le regard sur les autres et à être dans le siècle que nous vivons. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas être dans les siècles d'avant, ce n'est plus possible. Et si on veut aussi conserver les, ceux qui croient mais qui ne savent plus très bien, eh bien c'est le seul moyen, c'est de regarder les autres différemment et d'avoir pas ce regard sur la différence. C'est-à-dire en fait, de prôner la tolérance.
Eh ben merci Dominique Ornus d'avoir fait un détour par nos studios pour faire connaissance avec vous et puis à travers vous avec entre autres cette association Riposte pour ceux qui voudraient en savoir plus, un site internet www.solutionriposte.monsite.orange.fr, je répète solutionriposte au singulier monsite.orange.fr. En tout cas, vous tapez solution riposte, vous y arriverez. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.